Beurre FM, les mots piégés du débat républicain, Pierre-Henri.
Il y a parfois des mots qui fâchent, des mots du vocabulaire politique. Souvent, ils sont mal connus, employés de manière inappropriée, instrumentalisés. Ils se répètent et se buzzent en réseau, confortant posture et parti pris. Ils font débat et nous divisent. Ce sont les mots piégés du débat républicain, une série que vous connaissez bien maintenant et qui est sur Beurre FM. Les mots piégés du débat républicain, une émission qui débuste que les faux-semblants, après être revenu sur l'origine du mot et sa balade dans l'actualité, je reçois un invité qui nous aide à y voir encore plus clair. Aujourd'hui, c'est le mot obscurantisme qui est sur la sellette. Il est habituel de qualifier d'obscur ce qui est sombre ou ténébreux, ce qui est sans lumière, ne reçoit pas de clarté et qui ne la diffuse pas non plus. Au figuré, cela nomme un fait qui est inintelligible, pas clair pour l'esprit, difficile à comprendre. Et cela qualifie également une personne inconnue qui demeure dans l'ombre, qui n'a pas acquis la renommée. Alors que l'adjectif obscur date du XIIe siècle, la notion d'obscurantisme n'apparaît qu'en 1819 pour nommer une attitude hostile à la philosophie des Lumières et à la diffusion des connaissances scientifiques, de l'instruction, du progrès. Plus généralement, l'obscurantisme est alors défini comme une attitude qui rejette les comportements libéraux ouverts et tolérants. L'apparition de ce terme coïncide en fait avec la période de restauration de la monarchie en France, avec l'accession au trône de Louis XVIII en 1814. Ce sont ses soutiens, ultra hostiles à la diffusion des idées libérales, qui furent qualifiés en premier d'obscurantistes. Aujourd'hui, les accusations d'obscurantisme sont encore nombreuses. Elles portent principalement sur les groupes qui colportent des idées intégristes, fausses et contraires aux valeurs d'ouverture que promouvaient les Lumières. Le président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui, avait par exemple appelé en 2020 à lutter contre le terrorisme, l'obscurantisme et la haine après l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur décapité car il avait osé parler de liberté d'expression et de liberté religieuse à ses élèves. Obscurantiste encore, cette contestation de la vérité scientifique par les antivax qui signent un retour aux croyances alternatives et souvent archaïques. Le retour de l'obscurantisme se constate également par les vagues traditionnalistes qui traversent nos sociétés européennes et le renoncement au progrès qu'elles induisent. Lorsque ce n'est pas la Pologne qui revient sur le droit à l'avortement, c'est la Hongrie tout autant conservatrice d'Orban qui interdit la représentation de l'homosexualité dans l'espace public. Plus de 200 ans après l'émergence du terme, les obscurantistes sont toujours bien présents, qu'ils soient intégristes religieux, complotistes ou réactionnaires, voire les trois à la fois, leur fanatisme présente une menace pour notre société. Ainsi, ils doivent être combattus par l'affirmation constante de ce qu'ils haïssent et rejettent, à savoir nos principes républicains. Pour parler de l'obscurantisme, mon invité aujourd'hui est Monsieur Christian Silianoff. Monsieur Silianoff est un ancien haut fonctionnaire spécialiste du philosophe Jürgen Habermas et membre du comité d'honneur de France Fraternité. Christian Silianoff, bonjour.
Bonjour, Pierre-Henri.
Au départ, l'obscurantisme, c'est une opposition à la philosophie des Lumières. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qu'est cette philosophie des Lumières et qu'est-ce que cela représente pour nous actuellement ?
Oui, comme vous l'avez dit dans votre introduction, l'obscurantisme n'est pas un concept scientifique qui s'est imposé dans les sciences sociales, hein, comme que sais-je, libéralisme ou structuralisme. C'est un terme qui est historiquement daté, qui est vraiment lié au Moyen-Âge religieux, que l'on a ensuite qualifié d'obscurantiste. Et le mouvement des Lumières, lui, en effet, il s'est construit en rupture, précisément, avec la religion et l'Église, ce qui a été une véritable révolution, pas seulement en France, hein, dans plusieurs pays européens. Et c'est le siècle des Lumières en France, vers 1750, qui renvoie aussi à la philosophie des Lumières. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, hein, sont bien connus, je pense, par les lycéens en France. Et l'aboutissement politique, si l'on peut dire, du mouvement des Lumières, c'est la Révolution française. Et notamment un texte absolument fondateur qui contient toute la philosophie politique des Lumières, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc la Révolution, elle va conduire à la fin de la monarchie, précisément dite de droit divin, donc à la fin de l'absolutisme royal et la mise en place progressive, difficile et douloureuse, comme nous le savons, un siècle plus tard seulement, hein, de la République. Et tout cela va culminer en 1905 avec la loi de séparation entre l'Église et de l'État. Mais toutes nos grandes lois de liberté publique, qu'il s'agisse de la liberté d'association, le droit de la presse, le droit de grève, toutes ces lois datent de la Troisième République à partir des années 1890. Oui. Donc en effet, l'esprit des Lumières, hein, me semble-t-il, nous inspire toujours.
D'accord, mais alors, comment vous expliquez que la question de l'obscurantisme revienne de manière régulière dans les débats, notamment avec le complotisme, les mouvements anti-vax? Qu'est-ce qui nourrit l'obscurantisme contemporain et comment le contrer?
Alors en effet, hein, l'obscurantisme revient dans les débats actuels, mais sous une forme beaucoup plus large. C'est-à-dire, il n'est plus fondé sur la religion, mais plus précisément sur l'opposition à la raison, à la connaissance scientifique et aux faits. Et d'ailleurs, il y a des universitaires du CNRS qui ont écrit un ouvrage récent, collectif, en se posant la question, le 21e siècle sera-t-il irrationnel ? En citant de nombreuses et différentes manifestations de cette irrationalité qui rejette l'idéologie du progrès et du rationalisme des Lumières. Alors c'est effectivement le mouvement complotiste, les mouvements anti-vax, plus généralement tout ce qui est alter ou anti-science, mais il y a aussi d'autres mouvements comme le retour à l'ésotérisme, le créationnisme religieux aux États-Unis. Oui. Et donc les auteurs montrent qu'en effet, au XVIIIe siècle, s'est imposée la modernité scientifique progressivement, mais depuis, il y a eu à nouveau des périodes de retour à l'irrationnel et qui sont assez nombreuses. Alors les causes, elles sont à la fois très diverses. Je pense qu'on ne pourrait pas ici les expliciter. Elles sont anthropologiques, politiques, sociales, voire technologiques, avec l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux comme amplificateurs. Ouais. Alors je pense que pour pallier à cela, il faut d'abord qu'il y ait une plus forte confiance entre les gouvernants et les gouvernés, confiance un peu abîmée aujourd'hui, hein, qui peut pallier cet obscurantisme ambiant. Bon, ça veut dire que, bien sûr, les autorités ont une responsabilité première, très importante, de diffuser des informations justes, des explications rationnelles. Mais c'est vrai que chaque individu aussi peut faire des efforts de compréhension, doit adopter des comportements responsables, peut être solidaire, nous pouvons être plus solidaires les uns envers les autres.
Oui,
donc
alors
on ne voit pas d'autre voie, en fait, que celle de la discussion permanente, oui, qui permet un apprentissage mutuel à travers l'échange, qu'il soit interpersonnel ou plus large.
Oui.
Alors, il faut faire le pari d'une plus grande intelligence collective. Je pense que beaucoup de simplisme, de confusion sont à l'origine de convictions et de comportements irrationnels, alors que nous sommes environnés, de fait, de plus en plus d'énormément de complexités qui sont exigeantes.
Très bien, mais alors, très brièvement, mais vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas réduire la question de l'obscurantisme aux religions, mais tout de même, dans le sillage des religions, c'est toujours développé l'obscurantisme sous la forme de courants radicaux qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Alors, comment faire pour réconcilier et ne plus opposer la notion de progrès à la tradition religieuse ? Vous avez une réponse ?
Oui, je pense qu'il faut en effet plutôt réconciliés. Bien sûr, combattre, comme vous venez de le dire, les radicalités plus ou moins nouvelles et qui ne découlent pas toutes, bien sûr, des religions, loin de là. Mais il faut aussi peut-être que nous ayons à l'esprit que la spiritualité religieuse est très liée à la croyance en Dieu et au salut. Mais qu'aujourd'hui, cette notion historiquement marquée, elle est devenue beaucoup plus large. Aujourd'hui, la question de la spiritualité, c'est-à-dire tout simplement la quête de sens, le questionnement sur la vie et la mort, sur le bien et le mal, est une réalité que nous vivons chacun, que chacun vit. Et c'est une réalité à la fois individuelle et collective. Et donc, on peut tout à fait dire que si toute religion est spiritualité, toute spiritualité n'est pas religieuse. Elle englobe ce qu'on appelle la spiritualité laïque ou athée, une spiritualité donc sans Dieu ni sans religion.
Eh bien, voilà un débat à approfondir sur l'antenne de Beurre FM. Christian Silianeuf, merci de cet éclairage.
Je vous remercie également.
Au revoir.
C'était les mots piégés du débat républicain en partenariat avec France Fraternité.